Merci, c'est sympa. Vous écoutez audioblog.fr, c'est pas une raison pour vous mettre dans des états pareils. Moi, ça me fait des frissons partout. Suite avec une question d'Arnaud. Arnaud qui s'est levé un jour en sueur avec des problèmes existentiels de fond, qui s'est précipité sur son téléphone, qui a fait le 08 70 73 20 28 et qui a demandé ça.
En fait, je vous appelais parce que après avoir écouté même à plusieurs reprises des notes, je vous ai pas entendu parler des fils RSS. Pour indexer en quelque sorte, je sais plus quel est le terme qu'ils utilisent, en tout cas pour permettre l'indexation du contenu du site web sur dans les fils RSS. C'est ça, RSS. Donc j'ai pas tout compris et je voulais savoir si éventuellement, ça vous embêtait pas d'en parler un tout petit peu.
Que ça me dérange de parler. Il est fou, Arnaud, il est fou. Il est fou, mais enfin, il pose une bonne question. RSS, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et vous êtes peut-être comme Arnaud, qui manifestement n'a pas compris ce que c'était, parce que ça n'a rien à voir avec de l'indexation de site, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un truc assez génial, qui part du principe suivant. Des sites web, il y en a, en gros, deux grandes catégories. Il y a ceux que vous regardez ponctuellement pour y faire quelque chose de bien précis et jamais deux fois de suite la même chose. Par exemple, Google, quand vous faites une recherche. Par exemple, le site de la SNCF, si vous voulez réserver un billet de train. Donc là, à chaque fois, vous avez une opération bien particulière sur le site. Et puis à côté de ça, il y a peut-être des sites d'information en général, que vous regardez régulièrement, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons perso. Et pour chacun de ces sites, vous vous connectez, puis vous regardez en diagonale la page d'accueil, où sont affichées donc les dernières infos. Si vous en avez qu'un ou deux à consulter régulièrement, c'est pas très grave. Si vous en avez par exemple une dizaine, ça devient un peu fastidieux. À chaque fois, il faut lancer le navigateur, taper l'adresse, regarder la page, paf, aller à l'adresse suivante, regarder la page, etc. C'est pas ultra pratique. Et RSS, ça sert juste à simplifier cette manip. Parce que RSS, c'est à la fois tout bête, très simple et extrêmement pratique. Ça consiste à mettre en œuvre du côté du site une petite manip qui va faire que, à une adresse un peu particulière, on va avoir non plus la page complète, mais uniquement, exclusivement, les titres des dernières news et puis les premières phrases de chaque texte de ces news. À côté de ça, il existe des logiciels lecteurs RSS. Un certain nombre même de navigateurs web maintenant commencent à le faire, c'est le cas de Firefox par exemple. On renseigne cette adresse une fois pour toutes dans le logiciel, et on peut en mettre plusieurs, et à ce moment-là, le logiciel, sur une interface unique, va permettre d'avoir la liste de tous les titres, et puis les premières phrases de chaque texte, de tous les sites qui nous intéressent. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 5, 10, 15 sites que vous visitez régulièrement, des sites d'information qui proposent une adresse RSS, quand vous allez lancer votre logiciel, d'un seul coup, les titres de ces 15 sites, vous allez voir s'afficher, vous allez pouvoir sélectionner celui qui vous intéresse et que vous voulez lire, et à ce moment-là, le logiciel va envoyer le navigateur chercher la page en question. Donc ça permet, au lieu de passer son temps de site en site à chercher désespérément entre les pubs et autres le truc qui vous intéresse, de pouvoir d'un seul coup d'œil regarder ce qu'il y a de nouveau dans une grande quantité de sites. C'est extrêmement pratique. Et incidemment, d'ailleurs, c'est sur ce principe même de RSS que repose ce fameux, voire fumeux podcasting. Si vous renseignez dans votre logiciel RSS l'adresse de duoblog.fr, si le logiciel en question reconnaît, comme c'est assez récent, c'est pas le cas de tous les logiciels, le format podcast, comme on dit, non seulement il va vous rapatrier les nouvelles news que j'ai postées sur le site, mais également il va pouvoir vous rapatrier tout aussi automatiquement les fichiers sons qui vont avec. Elle est pas belle la vie. À ce moment de la manœuvre, il faut que je vous fasse part d'un petit problème personnel. Lorsque je fais écouter à ma compagne ce que je fais, elle me répond régulièrement « Oui, mais alors, c'est très technique, on n'y comprend rien, et patati patata. » Elle n'a pas forcément tort, par exemple, en ce qui concerne cette histoire de RSS, qui est quelque chose de très simple au fond, mais complètement abscon à expliquer. On a l'impression que c'est une vraie usine à gaz. Alors, je me suis dit que j'allais intercaler entre mes petits sujets quelque chose de vraiment pas technique. Et dans le genre vraiment pas technique, je me suis dit qu'une information conjugale serait la bienvenue. Alors moi j'ai la chance de vivre avec la nana la plus formidable de la planète, et des alentours d'ailleurs, mais c'est peut-être pas votre cas. Alors, on commence par un premier conseil, lorsque vous avez un souci à la maison, c'est peut-être que vous savez pas lui parler. Et lorsqu'elle se lève de mauvais poil, bah, ça arrive à tout le monde, hein, bah, vous lui appliquez la méthode Matthew. Matthew c'est un gars de Washington, et quand sa nana se lève de mauvais poil, il lui dit ça. Si vous lui parlez comme ça, normalement, ça devrait marcher. Mais après, si ça marche pas, rassurez-vous, j'ai encore une ou deux méthodes en réserve. Mais avant de vous les envoyer, je voudrais revenir sur un truc qui me préoccupe, qui m'intéresse en ce moment, c'est cette histoire de constitution. Ah oui, petite parenthèse, comme à chaque fois que je parle de la Constitution, j'ai droit à des commentaires assassins sur le site. Je suis pas du tout anti-européen, c'est la méthode qui me déplaît fortement. Ce vote pour la Constitution, c'est un vote important. Lorsqu'on vote pour un président, un député, un maire, etc., on en prend au mieux pour quelques années. Donc si on s'est trompé, c'est pas dramatique. Ça s'arrête un jour et on peut revoter autrement. Quelqu'un d'autre qui fera la même chose derrière. Tandis que ce vote sur la Constitution, c'est quelque chose qui se veut définitif et qui engage non seulement nous aujourd'hui, mais surtout nos mômes pour après, pour le futur. Donc il me semble que ça mérite de pouvoir être exprimé sur des bases sérieuses. Et il y a deux sources pour disposer des éléments de réflexion pour ce vote. C'est d'un côté le gouvernement qui est censé expliquer ce sur quoi il va nous demander notre avis exactement, puis de l'autre côté c'est la presse. Alors pour ce qui est de la presse, c'est relativement vite vu, j'ai fait un tour rapide ces derniers temps. En fait, j'ai trouvé que deux journaux qui ont publié cette constitution, c'est l'Humanité qui en a fait un hors-série spécial qui est vendu en kiosque. J'ai pas regardé quel texte il y a dedans. C'est important cette histoire de texte. Et l'autre, c'est La Croix, qui publie ça sous forme d'épisode. C'est un peu comme Dallas, le soir avant de vous endormir, vous tapez votre petit bout de constitution. Pour le reste, mis à part les petites phrases, les racontars à gauche, les bagarres à droite, etc., c'est le néant total. Et au fond, c'est un peu normal. La presse réserve son espace aux choses importantes, comme l'avait fait d'ailleurs Le Monde à l'époque où Bill Clinton avait des problèmes de visée éjaculatoire. Le Monde avait consacré 16 pages à de très larges extraits du rapport Star de l'époque. Mais enfin, il est vrai que les éjaculations de Bill Clinton, c'est quand même plus important que cette histoire de constitution européenne. Mais bon, allez-vous me dire, chers auditeurs, chères auditrices, après tout, si tu veux lire le texte de la Constitution européenne, tu peux aussi te sortir les doigts du machin et le trouver tout seul. Et c'est très vrai, c'est donc ce que j'ai fait. Et vous trouverez sur la liste de liens qui accompagne cette note un certain nombre d'adresses qui permettent d'avoir accès au texte de la Constitution. Et quand on essaye d'avoir accès au texte de la Constitution, on s'aperçoit que la façon dont il est diffusé est un petit peu bizarre. Par exemple, on peut tout à fait demander sur un site gouvernemental de se faire envoyer le texte de la Constitution, et ce texte donc fait 28 pages. Il s'appelle Traité établissement une constitution pour l'Europe, et il est édité par l'Hémicycle et le service d'information du gouvernement. Il fait donc 28 pages. Il est diffusé dans la limite des stocks disponibles. Alors, avec cette petite annotation, je la trouve un petit peu scandaleuse. Imaginez les impôts qui soient payables dans la limite du stock de feuilles d'impôts disponibles, ou que vos salaires soient payés dans la limite des feuilles de paye disponibles. Enfin bon. Il fait donc 28 pages. Et si on regarde un peu plus loin sur le site, alors en revanche, il y en a un certain nombre de versions qui sont payantes. Et les versions payantes, elles font de 232 à 482 pages. Parce qu'en fait, il s'avère tout simplement que les versions qui sont distribuées sont expurgées de toutes les annexes et de tous les chapitres périphériques, et donc ne concernent que le principal, qui lui malheureusement n'a pas de sens sans ses annexes. Morale de cette histoire, on organise donc un référendum pour savoir si oui ou non nous sommes d'accord avec le contenu d'un texte que personne n'aura lu. On peut se demander si on se fout pas un peu du monde là, et la bonne question, ça va être celle qui concerne le contenu de ce qui va être envoyé à chacun, puisque normalement le gouvernement a fini par se décider à envoyer le texte de la Constitution. Je serais fort étonné que ce soit le texte complet, qui fait donc quelque chose comme 400 pages en moyenne, mais plutôt la version extrêmement expurgée qui en fait seulement 28. On peut parler de décision sur des vraies bases solides. Bon, alors on en revient à notre histoire informative conjugale. Si jamais la méthode Mathieu n'a pas marché, que ça dégénère et que ça super dégénère, vous allez en arriver au gros mot. Si vous devez la traiter de salope, faites-le avec classe, comme par exemple Genuine Leather Band, le vrai groupe en cuir qui va nous swinguer Beach Blues. Petite news sur la photo. En ce moment, les systèmes de galerie de photos en ligne et de partage de photos sur des serveurs web ont le vent en poupe. Tout le monde rachète tout le monde. Kodak avait racheté une boîte qui s'appelle Ophoto, qui maintenant ça va s'appeler EasyShare Gallery. Yahoo vient d'en racheter un autre. HP en a racheté encore un. Nikon monte son service. Donc c'est le dernier truc hype du moment. À l'usage, je ne trouve pas personnellement ces systèmes de galerie en ligne vraiment géniaux. J'avais essayé il y a quelques mois pour des photos familiales, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué pour une raison toute bête, qui est que vous pouvez avoir des photos que vous souhaitez partager avec des amis, de la famille, etc., sans forcément avoir envie que la Terre entière vienne les voir. Et alors ensuite, sauf à être spécialiste en développement web, faire des choses qui soient vraiment confidentielles, c'est quand même extrêmement compliqué. Et alors, je parle même pas des services que je viens de citer, qui eux sont carrément pas faits pour. Imaginez deux secondes, une soirée avec le tonton Gérard rond des fonds en train de tripoter la serveuse, ça peut faire beaucoup rire dans la famille. L'idée que la Terre entière puisse le voir, ça va pas forcément le faire bondir de joie. Il y a une alternative à ces galeries en ligne qui repose sur des logiciels qui permettent à deux ordinateurs de se parler et donc de s'échanger des photos. Alors, il y a deux familles pour ça. Nikon vient de lancer un service qui s'appelle NikonNet, qui est extrêmement bordélique pour l'instant, avec une ergonomie à... Je ne vais pas la qualifier, on va dire, mais Nikon est très mauvais pour ses serveurs web au départ, donc ils vont l'améliorer, ça va finir par marcher bien. L'idée n'est pas bête, ils ont développé un petit logiciel client qui existe sur Mac et sur PC, qui s'appelle Picture Project InTouch, je crois, et qui en gros fonctionne assez simplement. On lui montre un paquet de photos qu'il appelle lui une galerie, il l'envoie, il faut ouvrir un compte sur le serveur, il l'envoie sur le serveur et il vous demande à qui vous voulez l'envoyer, vous donnez l'adresse email, et il se charge d'envoyer un petit message au destinataire en lui disant en gros voilà, vous avez une galerie de photos à votre disposition, soit vous pouvez la prévisualiser en ligne, soit vous téléchargez le logiciel qui est gratuit et vous la récupérez sur votre PC. En gros, c'est plus simple que de les envoyer par email ou de galérer avec du FTP, c'est plus convivial. Et puis il y a une deuxième famille, mais là les développeurs de cette deuxième famille sont des chacals, donc ça n'existe que pour Windows, qu'ils soient maudits jusqu'à la 25e génération, que leur foi racornisse et que leur coucouille sèche et tombe. Il s'agit de Google, qui avait racheté Picasa il y a déjà quelques mois et qui maintenant a une extension qui s'appelle Hello, qui est une sorte de messenger dans l'esprit des MSN Messenger, Yahoo Messenger et compagnie, qui vient se plugger sur Picasa et qui permet entre deux machines équipées donc de ces deux softs, un de discuter et puis deux de se montrer les photos comme ça de machine à machine. C'est plutôt pas mal, ça permet de le faire donc dans un cercle privé. Et à côté de ça, il y a des Français, alors je précise qu'ils sont français parce que ça se voit pas beaucoup, leurs serveurs et leurs softs sont en anglais, qui s'appelle PixVillage, qui eux également ont développé un logiciel pour Windows, ce sont donc des rats, et Windows uniquement, et qui permet également entre deux PC donc équipés de leur soft, de se montrer des photos, de se les faire passer, un peu dans l'esprit des systèmes de peer-to-peer que les mômes utilisent pour se passer des fichiers musicaux. Et bien je trouve cette méthode à l'usage plutôt pas bête. Ah oui, où j'en étais dans ma rubrique avisée pédagogique conjugale. Ah oui, vous l'avez traité de salope sur l'air de Beach Blues, et vous avez juste oublié un menu détail, c'est que l'appart est à son nom, et rien qu'en regardant la direction dans laquelle elle pointe l'index, la porte, il n'y a pas besoin de demander l'explication, va falloir décamper vite fait. Ouais, mais et vos affaires? Bah dans ce cas, Rebelstorm conseille de récupérer tout ce qu'on peut, taking all I can, c'est ce qui se dit à Tacoma, un trou perdu de l'état de Washington. Je crois qu'ils ont raison, c'est la seule solution. Puis de toute façon, on se quitte là-dessus. Allez, salut! That devil's too slow, he can't catch me.